Premier sujet ce matin, ce rapport rendu public hier du ministère de l'Environnement qui montre une augmentation significative, importante, de la présence de pesticides dans l'eau.
Oui, avec... En fait, il n'y a pas de grande surprise dans ça.
La tendance continue, là.
La tendance continue, puis on la voit s'élaborer. Non, c'est assez suave, les réponses que M. Groslot faisait dans certains cas, parce que, dans le fond, l'argumentaire, puis je suis revenu à une de ses répliques. Là, actuellement, l'Union des producteurs agricoles a déposé un plan vert au gouvernement pour demander que le gouvernement soutienne des efforts pour éliminer le plus possible les pesticides. Et dans ce plan-là, un des arguments, c'est de dire ça nous prend de l'argent pour financer la recherche, pour soutenir les producteurs, parce que, et là je cite textuellement, « les bonnes pratiques ne sont pas toujours rémunérées par le marché ». On comprend bien que ça veut dire qu'une bonne pratique qui serait plus saine au niveau environnemental risque de causer un coût plus élevé aux producteurs, donc diminuer éventuellement ses profits, et que le marché ne sera peut-être pas en mesure de payer le prix plus élevé qu'il devrait demander s'il exigeait le vrai prix. C'est ça le raisonnement. Et il y a des parties là-dedans qu'on comprend. Un producteur, il veut faire des profits, puis c'est normal, puis c'est correct, il cultive, il faut que ça y rapporte, il faut qu'il en vive. Mais en même temps, là, quand je regarde cet argument-là, je me dis, là, on est en train de nous dire que c'est mieux d'avoir du blé qui contient homéopathiquement des glyphosates et de sans peu à peu s'empoisonner avec ce qu'on mange que de dire, ben on va exiger que vous payiez un peu plus cher puis avoir quelque chose de parfaitement sain. C'est un raisonnement qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est un raisonnement qui ne tient pas le coup. On viendra sur d'autres affaires.
Patrick.
Un des problèmes dans cette saga-là qui a commencé, qui a été révélé au jour, dans le fond, par toute la saga de Louis Robert, l'agronome qui a été congédié par le ministère de l'Agriculture, c'est est-ce que la recherche sur laquelle on se fie pour établir des pratiques, ici c'est en agriculture, est-ce qu'elle est neutre et objective? Et ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que, ben non, là, il y a beaucoup de recherche qui est faite par l'industrie. Il y a beaucoup de conseils qui est fait par l'industrie. De cette façon-là, et c'est ce que démontrait un reportage de la Semaine verte avant que Louis Robert soit congédié. Toi, tu es agriculteur. Ben, tu veux que tes récoltes rapportent le plus possible. C'est tout à fait normal. Mais le gars qui te dit « Hey, tel pesticide ou tel système d'irrigation, c'est excellent pour toi », il n'est pas objectif. C'est le gars qui te vend le pesticide, c'est le gars qui te vend le système d'épuration. Louis Robert, lui, il était payé par le gouvernement. Il vendait rien. Puis il disait aux agriculteurs « Hey, l'irrigation, là, voici comment tu pourrais creuser ton champ autrement pour arriver au même résultat moins cher. Les pesticides, peut-être que tu peux en utiliser, mais pas autant que ce que le vendeur te dit. » Mais écoute, c'est sûr que l'industrie ne veut pas qu'il y ait des Louis Robert dans les champs du Québec. C'est évident. Et quand on arrive au glyphosate, on est dans les mêmes eaux, sans mauvais jeu de mots. Les gens qui disent à Santé Canada, nos produits sont bien corrects, c'est l'industrie du glyphosate. Parce que ce qu'on a appris, c'est que Santé Canada se basait sur la recherche fournie par l'industrie pour décréter que oui, on va rallonger de 15 ans l'autorisation du glyphosate.
Moi, je pense que la majorité des producteurs dans le monde agricole sont des gens qui comprennent très bien que tu peux pas mettre sur le marché des produits qui sont un risque pour la santé. Eux-mêmes sont des consommateurs, eux-mêmes mettent en péril leur propre santé. Puis je pense de même qu'une majorité d'agronomes sont des gens qui, normalement, essaient d'appliquer les meilleures pratiques.
Ben, tu te trompes.
Le problème, c'est qu'ils sont dans un conflit d'intérêts qui n'a pas de bon sens. Et donc, il faudrait qu'on aille vers une interdiction de jumeler les deux fonctions. C'est-à-dire que le fait de prescrire le type de produit que tu dois mettre, ça, c'est sûr que ça place chacun individu face à est-ce que j'améliore mon niveau de vie en touchant une cote sur ce que je vends ou est-ce que j'exerce mon métier pleinement sans qu'il y ait d'incidence commerciale. Ça me semble être une règle qui devrait s'appliquer. Puis j'ai de la misère à voir pourquoi elle ne s'applique pas.
Ce qu'on a vu depuis une quarantaine d'années, c'est un inversement de la proportion des agronomes qui travaillaient pour le public, pour l'État, fédéral ou provincial, et des agronomes qui travaillent pour des intérêts privés. Et là, on en arrive à une situation où la plupart des agronomes travaillent dans le privé.
Ils sont engagés par la compagnie à ce moment-là.
Exactement.
Ou quoi?
Et beaucoup, beaucoup d'agronomes travaillent pour des entités qui ont intérêt à vendre, que ce soit des pesticides, des fongicides, des
herbicides. Il y a des agronomes indépendants, mais
il y en a de moins en moins.
Ce qu'on appelle les groupements environnementaux.
Il y a eu des regroupements qui se sont faits, là, mais tu sais, ça demeure, c'est pas majoritaire.
En même temps, tu peux pas interdire à des gens d'être engagés par des compagnies. Tu peux pas non plus, comment dire, imposer que tous les agronomes vont être des employés du gouvernement. Quelle est la solution?
La solution, c'est que, moi, je pense que l'État arrête de se désengager de la recherche, arrête de se désengager du conseil. Parce que ce qu'on a vu, c'est que l'État québécois a, au fil des décennies, à son emploi, de moins en moins d'agronomes. Donc, de moins en moins d'agronomes qui parcourent les champs pour donner des conseils objectifs. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'État s'est aussi désengagé de la recherche. Toute la saga du sérum, le centre de recherche sur les grains, c'est un exemple du désengagement de l'État. Avant la création du sérum en 98, c'est l'État qui faisait ces recherches-là. Mais là, pour épargner de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? On sous-traite ça à cet organisme-là. On donne un peu d'argent, moins qu'avant, mais la recherche devient teintée. Ce qu'on a vu, c'est que la recherche est teintée. Il y a des chercheurs qui voulaient publier de la recherche sur les dangers de certains pesticides pour les abeilles. Ben, on a muselé ces chercheurs-là. Pourquoi? Parce que dans le centre de recherche sur les grains, il y a des intérêts qui vendent des grains qui sont enrobés de pesticides.
Mais c'est comme pour les médicaments, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quand on dit teinter une recherche, ça ne veut pas dire qu'on traficote les résultats. Ça veut juste dire qu'on ne sort pas celles qui ne font pas notre affaire.
Ouais.
Tu la gardes dans le tiroir.
Puis
des fois, tu peux être, appelons ça, créatif sur le plan de la rédaction. Tu sais, quand un médecin-chercheur me dit là, que chaque mot qu'il va écrire dans son étude, là, il faut qu'il fasse approuver.
Ouais.
C'est assez
clair. Il y a aussi du financement indirect, c'est-à-dire que si les grosses compagnies soutiennent les organismes qui elles-mêmes commandent les recherches, ben on est déjà dans une apparence de conflit d'intérêts.
Oui.
Et c'est pas si évident, là, ça n'a pas été directement financé.
Et Pierre, quand tu dis « c'est pas si évident », bon, il y a de la recherche neutre et objective. Il y en a, on le sait, elle est financée par l'industrie. Il y a eu une fuite de documents confidentiels de la compagnie Monsanto. Les journalistes du journal Le Monde, notamment, ont fouillé là-dedans. Et ce qu'on a vu, c'est que Monsanto a fait passer pour objective de la recherche qui était téléguidée par Monsanto.
Oui.
Fait que tu as des organismes réglementaires qui sont fiés à ça en se disant « All right, ça, c'est une étude neutre qui n'est pas financée par l'industrie. » On apprend plus tard que ben non, c'était téléguidé par Monsanto. Donc, quand on me dit, moi, le glyphosate est complètement anodin, ben j'aimerais ça qu'il y ait pas mal plus de recherches objectives là-dessus. Après ça, on se fera une tête. Pour l'instant, c'est extrêmement inquiétant de voir que 97 % des cours d'eau au Québec sont maintenant portent maintenant une présence de glyphosate, contrairement à 38 % en 2001.
Oui, puis la rivière, le Huron, ça passe juste en arrière de chez nous. Mais l'autre problème, bon, je sais que c'est...
En conclusion,
c'est aussi l'augmentation du type de production. Et ça, on le voit, moi je le vois quand je sors de chez nous. Hein, tu sais, le nombre de champs de soya qui a 10 fois plus qu'il y a 25 ans, le maïs, là, on est en train de faire des monocultures, alors que s'il y avait une diversification, ce serait meilleur. Je termine en disant que j'ai vu, moi, des différences dans les vergers autour de chez nous, où tout à coup, on a commencé à modifier la façon dont on aspergeait. Parce que ça coûte très cher, ces produits-là. Et les producteurs se sont mis à contrôler beaucoup plus, à mettre moins de pesticides, moins de fongicides, dans le cas des vergers. Et on voit la différence. Mais il y a encore beaucoup de Roundup autour des pommiers, dans les vergers, partout autour de chez nous.
Au retour, un vrai sujet majeur de discussion pour contre la zone de bousculade à l'école.
Enfin.
Là, on commence à jaser. Le tunnel La Fontaine.
On parle pour le vrai. Là.
Non, comment ça, ouais.